Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 février 2022 et aujourd'hui il y aura les chiffres du CPI. Alors ça on y reviendra tout à l'heure, mais c'est le gros truc du moment. Néanmoins, hier on a eu un peu ce sentiment qu'on a quand même profité de la journée d'hier pour se dire tiens, si on faisait comme si c'était génial, comme si tout allait super bien et comme si on vivait dans le meilleur des mondes. Et puis en plus, il faisait beau, donc les marchés étaient plutôt motivés. Donc très très belle journée un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, le Nasdaq repart à la hausse, on rattrape gentiment le terrain perdu, on est encore loin des tops, on est à plus de 10%, près de 10% des tops sur le Nasdaq, mais globalement, on était assez enthousiaste, et la raison de cet enthousiasme, eh bien, c'est principalement le rendement du 10 ans qui baisse. Alors oui, le rendement, il baisse, il faut le dire, super vite, hein, quand même. On est passé de 1,97 à 1,98, on est redescendu à 1,95, donc c'est waouh, c'est un crash quasiment sur les rendements du 10 ans. On est complètement enthousiaste parce que ça change complètement la photo. Encore une fois, il y a vraiment cette espèce de d'ultra connexion avec le rendement du 10 ans. Ce qui est assez fou, c'est que probablement, une fois qu'on aura commencé à intégrer le concept de la hausse des taux ces prochains temps, on va s'en foutre complètement du 10 ans. Mais là, tout d'un coup, on a l'impression que les traders, ils ont d'un côté le rendement du 10 ans affiché et de l'autre côté le Nasdaq, et puis il traite en parallèle avec ça. C'est vraiment le sentiment que ça donne, et en tout cas c'est là-dessus que les gens se concentrent pour l'instant. Alors le rendement du 10 ans il baisse, oui bien sûr, mais quand même on verra l'inflation tout à l'heure, et puis en plus on est quand même tous plus ou moins convaincus qu'on va aller voir les 2%. Quand on voit le graphique du 10 ans, ça paraît plutôt logique qu'à un moment ou un autre on va y aller, et puis en plus on connaît les Américains, on sait qu'ils adorent les chiffres ronds, donc à un moment donné il faut juste aller l'afficher une fois ce 2% qu'on en parle plus. Donc en gros, la grande thématique aujourd'hui, c'est le 10 ans qui baisse. Donc c'était plutôt positif pour la tech parce qu'on se dit « Ah ouais, mais tout d'un coup, l'évaluation, la valorisation des tech, elles ont beaucoup, beaucoup baissé. Donc c'est peut-être une occasion de revenir parce que si en plus le 10 ans, il rebaisse, ah bah c'est génial. Puis en plus, comme la Fed, elle va réduire la taille de son bilan, il y aura forcément des conséquences. Donc forcément, ça devrait baisser encore un peu plus. » Donc si le 10 ans il baisse, donc le Nasdaq va exploser, bref, voilà, les vases communicants. Mais c'est assez sympa aujourd'hui parce que la réflexion que je me faisais ce matin en lisant finalement les informations qu'on peut trouver sur le net, un peu partout, dans tous les grands médias financiers du monde libre, eh bien, on trouve pas mal d'indications sur le fait de pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il s'est passé si, pourquoi tout d'un coup les gens ont commencé à racheter ou à vendre. Et finalement, j'ai l'impression que la seule chose qu'on voit pour l'instant, en ce moment, c'est les gens arrivent, ils voient le marché monter ou baisser parce que ça monte parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ça baisse parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. On sait pas trop d'où viennent les flows, on sait pas trop qui sont les acheteurs derrière et qui sont les gros acheteurs qui viennent pousser le marché dans un sens ou dans l'autre. Mais une fois qu'on a fini la journée, on regarde puis on se dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme justification ? Donc on n'est pas dans la réflexion fondamentale de se dire j'achète le marché parce que dans 5 ans la croissance des nouvelles technologies ou bla, peu importe la théorie, eh bien ça me pousse à acheter. Non, on regarde le marché aujourd'hui et puis comme on doit donner de l'information, comme je le fais tous les matins, eh bien on essaie de regarder comment est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi ça s'est passé hier. Alors hier, eh bien on s'est dit voilà, le 10 ans rebaisse de 0,02%, et donc du coup ça veut dire que c'est positif pour les techs parce qu'elles sont sous-évaluées. La réflexion elle est rapide hein, quand même, très très rapide, elle est encore plus rapide surtout que tout à l'heure, il y a les chiffres du CPI. En attendant, en Europe, on a eu une belle journée hier parce qu'on a eu des chiffres très positifs, des chiffres économiques très positifs en Allemagne puisque les chiffres des exportations allemandes étaient plus fortes en fait que ce qu'on attendait. Donc ça veut dire que les Allemands recommencent à exporter massivement post-pandémie. Oui, parce qu'on a quand même l'impression qu'on peut commencer à dire post-pandémie. Donc ça a l'air de se calmer gentiment. Et donc du coup, bon chiffre en Allemagne, enthousiasme en Europe. Les Européens, vous voyez, les Américains partir à la hausse. En plus, ils ont tenu jusqu'à la fin de la journée, ce qui est assez rare pour être signalé en ce moment. Et donc, du coup, vent de positivisme un peu partout. Et puis, à la fin de la journée, on s'est dit, ouais, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ouais, il y a quand même les chiffres tout à l'heure de l'inflation qui peut faire un peu peur. Mais quand on regarde la photo globale, quand on regarde les chiffres trimestriels, ça continue à être toujours plutôt pas mal. Alors oui, les chiffres trimestriels, on a toujours cette problématique, bien sûr qu'il ne faut surtout pas décevoir, messieurs les analystes, parce que sinon la sanction sera terrible, mais globalement, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Ça se passe relativement bien. On a eu, surtout hier soir, un chiffre qui est sorti qu'il faudra retenir, c'est Walt Disney, qui a publié des chiffres en hausse de 231% sur une année, 231% de plus sur le bénéfice sur une année. Bon, il faut dire que les mecs, l'année dernière, enfin, il y a 12 mois en arrière, on sortait de confinement, les parcs étaient fermés, forcément, ça cassait un petit peu l'ambiance. Mais là, du coup, ils ont récupéré 231%. Le titre est monté 3% dans la journée. Plutôt une belle séance pour Walt Disney, plutôt encourageant. Les gens sont plutôt contents sur les chiffres. Alors, c'est vrai qu'on va pouvoir enfin retourner librement dans les parcs avec mettre des oreilles de Mickey et un masque, ce qui a l'air plutôt assez sympa. Alors, déjà, que personnellement, j'ai juré que plus jamais je refoutrais les pieds dans un parc d'attractions tellement c'est l'enfer, mais là en plus avec un masque et les oreilles de Mickey obligatoires, ça va être sympa. Non, je rigole, mais en tous les cas, les chiffres de Disney étaient plutôt bons, en dehors de ces plus 231% de progression sur les bénéfices. Ce qui est surtout intéressant à regarder, c'est que les résultats de Walt Disney ont pulvérisé les attentes. On attendait quelque chose comme 74 cents par action, ça sort à 1,06. Donc encore une fois, on voit que les attentes des analystes et la réalité, c'est plutôt la différence entre la réalité et la fiction. Donc on est vraiment en plein délire de ce côté-là, ça continue à aller dans tous les sens. C'est assez rigolo parce que ça me faisait penser à une chose. Il fut un temps, quand j'étais jeune, qu'on disait que les sociétés, eh bien, elles devaient annoncer quand tout d'un coup, par rapport aux attentes des analystes, c'était nettement meilleur ou nettement moins bon, ce qu'on appelle un profit warning. En fait, en général, on connaît les attentes des analystes. Les analystes publient leurs attentes, donc les sociétés seraient censées regarder un petit peu ce que les analystes attendent, puis dire, les gars, non, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Une époque, c'était assez populaire. Il y avait des délais, il y avait des dates. Je sais pas si ça existe toujours ou pas, j'ai pas cherché à me renseigner, mais on n'en parle plus du tout. Bon, c'est un grand classique dans la finance, on parle beaucoup de certaines choses par moment, puis après on les oublie. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est assez marrant ces derniers temps dans les résultats de ce trimestre, c'est que finalement, eh bien, les gens, les sociétés n'annoncent plus les écarts visibles que eux doivent voir par rapport aux attentes des analystes et à la réalité de leurs propres chiffres. En tous les cas, là, hier, Walt Disney a pulvérisé les attentes des analystes. Merci à la réouverture des parcs, bien évidemment, et donc du coup, le titre se comportait relativement bien. Mais il n'y avait pas que Disney. Bon chiffre chez Uber aussi, un petit peu timoré sur le futur aussi, mais globalement, ça prenait 5% after close. Bon chiffre chez Lyft aussi, un petit peu moins explosif after close, mais aussi également positif. D'ailleurs, quand on regarde les deux charts successivement, Uber, Lyft... Bien, vous voyez que plus ou moins c'est les mêmes, donc ça se comporte assez de manière similaire. Étonnant, ils font juste le même business, quasiment la même chose au même moment, de la même manière. Donc globalement, ça se retrouve un tout petit peu. Néanmoins, un petit peu une meilleure interprétation des chiffres sur Uber qu'ils n'ont été sur Lyft hier soir. À noter aussi Twilio qui fait du cloud, qui était un des darlings, des super titres qu'on a adoré il y a quelques mois en arrière, qui s'est fait défenestrer depuis quelques temps. Et bien Twilio a publié des chiffres canonissimes hier, grosse croissance aussi, donc parfait, tout va bien, toujours le cloud, le cloud c'est la base aujourd'hui, le cloud c'est la vie. Et bien le cloud cartonne chez Twilio, et Twilio prenait 20% after close, donc ça va aussi bien de ce côté là. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que pour l'instant les chiffres des publications sont très bonnes. Alors effectivement, on a eu des très mauvais chiffres qui ont énormément déçu le marché. On l'a vu typiquement sur, pour ne pas citer, Facebook et Netflix. Mais autrement, on a quand même eu une bonne saison de résultats. Encore une fois, on voit que les sociétés cartonnent. Et on peut se demander, pour les sociétés qui cartonnent justement, est-ce que réellement le fait que la Fed va monter les taux ou pas, ou que le 10 ans va monter en dessus des 2%, est-ce que ça va réellement changer quelque chose? J'ai un peu l'impression que c'est cette réflexion-là qu'on se faisait hier soir. Néanmoins, on va entamer cette journée aujourd'hui en se posant des questions sur les chiffres du Consumer Price Index qui va sortir à 14h30 tout à l'heure aux États-Unis. Ce chiffre-là sera bien évidemment le chiffre de référence pour dire « Oh my God, c'est horrible, ça continue à monter, l'inflation galope ». Le marché attend 7,3% par rapport à 7% qui ont été annoncés le mois dernier. Je rappelle que le mois dernier, on avait le plus haut chiffre inflationniste depuis 40 ans, donc là, on devrait faire encore mieux, si on peut dire ça, entre encore mieux, c'est pas tellement ce qu'on aimerait voir aujourd'hui. Néanmoins, la Maison Blanche a parlé hier en disant qu'ils attendaient clairement un chiffre en dessus de 7%, donc on peut supposer qu'ils savent de quoi on parle. Donc on devrait avoir un chiffre autour des 7,5%. Faudra faire attention, si on reste dans cette zone-là, bah ça sera un non-event, parce qu'on va dire oui, mais on sait très bien que l'inflation est forte, on sait très bien que la Fed va agir, on a déjà pricé sur un certain nombre de choses. Si on a un chiffre qui est beaucoup plus loin en direction des 7,5, 7,8%, alors là, on va commencer à nous dire, oulala, mais la Fed, ils vont serrer la vis encore plus fort, ça va faire très très mal, c'est horrible, on va tous mourir. Donc il y a un risque un petit peu de ce côté-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la Fed, on a anticipé pour les plus bullish par rapport aux hausses des taux, pour les plus agressifs, 7 hausses de taux en 2022. Donc j'imagine quand même assez mal qu'on vienne nous dire que tout d'un coup là ça va être encore plus que 7 parce qu'il n'y a pas assez de mois pour augmenter les taux. Bon, ils ont le droit d'augmenter les taux en dehors des meetings de la Fed, mais bon bref. Donc on va avoir en fait de nouveau cette concertation. Donc un chiffre trop fort pourrait nous faire peur. Mais de nouveau, ce qui sera assez intéressant à observer cet après-midi, c'est le fait que on a déjà anticipé beaucoup de choses. Et je pense que si ça sort autour de 7,3, 7,5, le marché risque de continuer à bien se comporter parce qu'on dira, ouais, mais de toute façon, c'est déjà dans les prix. Petit détour sur l'or, on en parlait hier dans la vidéo d'hier, quelqu'un me disait est-ce qu'il faut jouer l'or à la hausse. Eh bien, si on regarde l'or aujourd'hui, regardez le graphique, vous voyez qu'on est en train de remonter en direction de cette résistance qui se situe autour des 1848-1850. Est-ce qu'on va réussir à les casser? J'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eh bien, l'or a l'air d'être relativement bien disposé. Et puis, on voit surtout que selon les chiffres, les inflows, donc les nouveaux acheteurs qui viennent acheter de l'or, mais surtout des trackers sur l'or type le GLD, eh bien, sont en pleine augmentation. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent se planquer dans l'or et qui viennent en acheter. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on voit des masses énormes à coups de milliards qui viennent acheter de l'or. Et l'or, il prend 5$. Donc c'est assez triste de ce côté-là. Maintenant, la question, c'est soit on casse les 1848 à la hausse et puis on peut aller commencer à parler de retour en direction des 2000$. On n'est pas encore là, mais on pourrait parler de ça. Soit on vient taper dessus et on descend pour la 1263e fois en direction des 1790. Donc à suivre attentivement, on va arriver dans une zone un peu critique. À l'heure actuelle, l'or est à 1834, il faudra surveiller, mais on en parle un petit peu beaucoup, et ça me fait rebondir justement sur un article qui a été publié par JP Morgan, qui estime que le Bitcoin est 12% surévalué par rapport à sa relation de connexion avec l'or. Alors voilà, ça c'est nouveau, donc oui, on sait que beaucoup de gens sont en train de chercher, est-ce qu'il y a une connexion entre l'or et le Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin est le nouvel or pour se hedger contre l'inflation? On n'en sait foutrement rien, parce que de toute façon, on n'a pas assez de recul sur le Bitcoin. Mais là, JP Morgan, ils ont trouvé carrément mieux. Ils ont un chiffre très précis. Le Bitcoin est trop cher par rapport à l'or, ou alors peut-être que l'or est pas assez cher par rapport au Bitcoin. Ça, on aura la réponse très très bientôt, mais c'est à voir. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que d'un côté, on a beaucoup d'avis tranchés sur les cryptos qui arrivent en ce moment. On le voit avec JP Morgan. Mais il y a aussi Wells Fargo qui est venu dans la foulée en disant que le Bitcoin est en phase d'hyper-acceptation, et donc il fallait absolument bourrer la caisse, en acheter tout plein partout, vendre les bijoux de la grand-mère, vend même carrément la grand-mère pour aller acheter du Bitcoin parce que c'est en hyper-acceptation. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire hyper-acceptation, mais ce que je veux dire, ce que j'imagine comprendre, c'est que finalement, eh bien, tout le monde va commencer à trouver ça absolument normal d'avoir des Bitcoins plein les poches, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des opinions super tranchées et un Bitcoin qui va un petit peu dans tous les sens, mais qui va un tout petit peu mieux. Et les techniciens et les experts sont en train de dire que là, on est en train de créer des vrais fondamentaux solides sur le Bitcoin. Et que normalement, eh bien, allez, les 100 000$, c'est pour Noël. Je termine aujourd'hui avec le Super Bowl Indicator. Le Super Bowl, la finale du championnat de foot américain aux États-Unis. En général, en Europe, on s'en contrefou, plus ou moins. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Alors perso, je me tape tous les matchs depuis 1987, donc ça fait un moment que je regarde ça. Mais ce qui est assez intéressant au niveau du foot américain, c'est que les Américains ont réussi à trouver une connexion entre les résultats du Super Bowl et les performances de marché. Donc on dit historiquement ce qu'on appelle le Super Bowl Indicator, que en fonction de quelle équipe gagne le Super Bowl, et eh bien ce sera bullish pour le reste de l'année ou bearish pour le reste de l'année. Donc on dit souvent aussi que le mois de janvier est le reflet de ce qu'on va vivre le reste de l'année. J'espère que c'est pas vrai cette fois et que ça marchera pas. Mais là, en tout cas, au niveau du Super Bowl cette année, pas cette année mais en général, on se dit que selon quelle équipe gagne, donc depuis quelle conférence ils viennent, eh bien, ce sera bearish ou bullish. Donc, vous avez deux grosses conférences aux États-Unis, l'AFC, enfin, l'American Football Conference, et la NFC, la National Football Conference. Donc, si vous êtes dans l'AFC et que vous gagnez le Super Bowl, ça veut dire que le marché sera bearish. Et si vous êtes dans la NFC et que vous gagnez le Super Bowl, ça veut dire que l'année sera bullish. Alors, vous me direz, ça vaut ce que ça vaut? Oui, ben, justement, statistiquement, pour l'instant, ça marche depuis 56 ans, puisqu'on est au 56e Super Bowl, sauf erreur. Donc, depuis 56 ans, on fait des statistiques là-dessus. Et depuis 56 ans, eh bien, on arrive à un taux d'efficacité de 75%, ce qui est quand même vachement mieux que le concept du pile ou face. Donc du coup, les gens regardent quand même un tout petit peu. Alors il faut dire une chose, c'est que depuis quelques temps, ça marche pas bien, depuis quelques années, hein, c'est un petit peu différent, surtout avec Tom Brady qui change d'équipe, parce qu'en fait, les Patriots étaient dans l'AFC, et puis les Tampa Bay Buccaneers étaient dans la conférence nationale. Bon, en l'occurrence, Tom Brady est à la retraite maintenant, mais en tous les cas, on sait que ça, cette année, ça marche, ces dernières années, ça a marché un tout petit peu moins bien. Néanmoins, vu que le Super Bowl, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, je suis obligé de vous en parler quand même. Donc, ce sera les Cincinnati Bengals contre les Los Angeles Rams. Et si les Rams gagnent, c'est boule. Si les Bengals gagnent, eh bien, ce sera bearish. Théoriquement, à 75%. Voilà, c'était le cours de football américain du jeudi matin. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Je vous encourage à liker cette vidéo. Je vous le demande, s'il vous plaît. Non, merci beaucoup en tout cas. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve demain, vendredi, pour parler des chiffres du Consumer Price Index qui vont nous diriger ces 24 prochaines heures. Passez une très très belle journée. Bye bye.